I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Comment accompagner au mieux les mères dans leur post-partum ? Vaste question. Vaste question qui appelle de multiples réponses. Alors, si on songe en plus aux mères qui ont vécu un post-partum sans bébé, ça risque d'être encore plus compliqué d'y répondre. Et pourtant, il y a tellement de pistes qui pourraient être explorées pour accompagner au mieux toutes les femmes qui viennent d'accoucher. Ces femmes qui vivent, pêle-mêle, la chute d'hormones, les saignements, les contractions utérines suite à l'accouchement, qui ont du mal à se déplacer à cause de la douleur liée aux éventuelles cicatrices, par exemple. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer deux très courts témoignages autour de l'accompagnement postnatal dans d'autres pays européens. De quoi élargir un peu les perspectives et nous ouvrir de nouveaux horizons sur le postpartum. Au revoir podcast, épisode 16, postpartum et deuil périnatal en Allemagne et aux Pays-Bas, quelques pistes pour mieux accompagner les femmes. Pour commencer cet épisode, il me semble important de faire un petit point sur le suivi postnatal en France. Charline est sage-femme et elle anime sur Instagram un compte dans lequel elle donne toujours de très bons conseils. Il y a quelques jours, elle a publié d'ailleurs l'info suivante. En France, je cite, « Peu importe la maternité dans laquelle vous avez accouché, vous pouvez bénéficier de visites à domicile de la part d'une sage-femme pour votre suivi et celui de votre bébé. » Le constat de Charline est en fait le suivant. Si elle a posté ce texte, c'est parce qu'elle se rend compte que beaucoup de femmes ne sont pas au courant qu'elles ont ce droit, cette possibilité, et que beaucoup se contentent, faute d'information, de la visite obligatoire 6 semaines après l'accouchement. Mais on sait que 6 semaines, c'est long, très long. Je me suis donc permise de demander à Charline si ces visites étaient aussi possibles pour les femmes qui ont accouché mais qui vivent aussi un deuil périnatal, puisque la sage-femme est censée venir aussi pour pratiquer des soins sur l'enfant. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Si votre bébé est décédé et que vous êtes rentré chez vous, une sage-femme peut se déplacer pour venir vous voir. Vous en avez tout à fait la possibilité et ces visites vous seront remboursées. Autre cas de figure. Si votre bébé est en réanimation néonatale et que vous souhaitez qu'une sage-femme vienne chez vous, c'est encore possible. Et si vous vous heurtez à une personne qui vous dit que non, elle ne fera pas le déplacement car il n'y a pas de bébé à la maison et qu'elle ne vient pas seulement pour voir la mère, eh bien, changez de sage-femme. J'ai tout de même nuancé ça en vous précisant que, en fonction des régions, des disponibilités, de la distance avec votre domicile, on pourra aussi vous proposer de venir pour un rendez-vous au cabinet de la sage-femme. Mais si vous avez l'impression que la personne n'est pas sensibilisée au deuil périnatal, si vous avez peur de ne pas vous sentir en confiance avec elle, n'y allez pas. L'essentiel, si vous souhaitez un suivi, c'est d'être en présence d'une personne qui saura vous écouter et prendre en compte la situation singulière de votre postpartum sans bébé. Julie était mon invitée de l'épisode 15 et elle vit en Espagne. Suite à son IMG à 8 mois de grossesse, elle a eu du mal à se réapproprier son corps et s'est retrouvée face à des soignants et soignantes visiblement peu à l'aise avec le deuil périnatal. Je vous laisse écouter un extrait de l'épisode qui est consacré à son postpartum sans bébé.
Quand tu vis le postpartum de ta compagne, tu sais à quoi t'attendre. Dans les grandes lignes, il n'y a pas eu de surprise. Je savais à quoi m'attendre. Après la déchirure, le temps que ça prend pour s'en remettre après l'accouchement. On a eu des accouchements très différents parce que le sien était beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que j'ai pas eu de surprise du tout. Moi, j'avais déjà acheté plein de culottes filées, j'étais hyper prête, j'avais mon stock de compresses post-partum, ça me dérangeait pas. Enfin, il y a pas eu de surprise, c'est juste que c'est pas la même chose de le vivre avec un bébé ou sans bébé, mais c'est juste le vide en fait, ce vide qu'il faut arriver à gérer. Et c'est ça qui est hyper compliqué. Au début, sincèrement, c'était vraiment de la survie, en fait. Hein. Quand tu vis une expérience aussi traumatisante, enfin moi, mon but, c'était juste de survivre à l'heure. Et puis, quelques jours plus tard, c'était de survivre à la journée. Et si j'arrivais à survivre à la journée, mon but, c'était de survivre à la semaine. Enfin, et ça a duré longtemps, quand même. Ça m'a pris quelques semaines de sortir de ce gros brouillard, on va dire, et quand j'en suis sortie, c'est là où je me suis rendu compte de mon corps et j'ai fait oulala, ça c'est va falloir que faire quelque chose et il va falloir se le réapproprier. C'est juste que c'était pas mon corps, enfin je le reconnaissais pas et t'as l'impression que c'est pas toi. Si tu veux un suivi, j'imagine que tu peux appeler ta sage-femme, prendre rendez-vous, mais le truc de base, en fait, c'est au bout des six semaines, faire un contrôle pour vérifier que l'utérus est bien revenu à sa place et que les saignements ont stoppé, etc. Moi, au bout de 6 semaines, j'ai pris rendez-vous chez ma sage-femme parce qu'en plus, je saignais encore. Et là, elle m'a demandé comment allait mon bébé. Et je me suis dit... Avec la Covid, alors déjà, ils mettent pas les visages sur les gens parce qu'ils ont presque pas eu de rendez-vous présentiel. Et en plus, moi, j'ai eu plusieurs sages-femmes. Il y a eu un départ à la retraite. Ensuite, j'en ai eu une autre, une remplaçante. Ensuite, il y a eu celle qui est venue prendre la place de celle qui était partie. Personne ne me connaissait vraiment, en fait. Hein. Et celle-là, je l'avais jamais vue. Mais bon, ça m'avait quand même choquée parce que dans le Pays Basque, notre histoire clinique apparaît. Enfin, s'ils cliquent sur notre nom sur leur ordinateur, ils peuvent voir. Et moi, le dernier truc qui m'est arrivé, c'est ça. Hein, Donc, c'était quand même très facile pour elle de jeter juste un petit coup d'œil. Et j'étais sûre que ça allait... Enfin, je m'attendais à une gaffe parce que tu t'attends toujours à... Tu t'habitues aux gaffes, on va dire. Du coup, tu sais toujours que ça va être compliqué, tous les rendez-vous, tout. Mais à ce point-là, quand même, c'était... Du coup, je lui ai dit, il est toujours mort, le bébé. Ouais, j'ai été un peu dure à ce moment-là. Ça l'a un peu... Elle m'a dit, je savais pas. Enfin, tu peux le savoir si tu veux, mais on t'a pas regardé, en fait.
Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? Eh bien, nous allons partir dans 2 pays européens pour comprendre un peu comment le postpartum des femmes sans bébé est pris en charge. Pour ce premier témoignage, on part ensemble à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne. Alexandra y vit depuis quelques années. En novembre 2018, elle a donné naissance à Victor. Victor, ce petit garçon qui n'a pas pu vivre. Comme va vous l'expliquer Alexandra, le postpartum, en Allemagne, porte un nom très spécifique. Ce sont, littéralement, les semaines au lit, les Wochenbett. Des semaines pendant lesquelles une sage-femme est joignable à n'importe quel moment et vient voir la maman très régulièrement. Que son enfant soit vivant ou non. Pour son accouchement, Alexandra a eu une césarienne et la découverte de ce corps post-grossesse était très difficile à vivre pour elle. Avoir établi un contact privilégié avec une soignante qui l'accompagnait dans son postpartum et qui était sensibilisée au deuil périnatal a été, rétrospectivement, d'un grand soutien pour Alexandra.
En Allemagne, c'est un mot très parlant. Ce postpartum, ça s'appelle le Wochenbett. Était censé rester au lit pendant 6 semaines. Et donc, en fait, les femmes le font plus. Mais en tout cas, la sage-femme vient dans ta chambre. Et tu es censé être allongée dans ton lit avec ton bébé, bien sûr. Et elle vient vraiment à ton chevet, en fait. Et cette image-là est quand même très parlante. Même si le bébé n'est pas là, elle vient, elle s'occupe de ta cicatrice, elle me donnait des conseils pour la rééducation, elle nous écoutait beaucoup. La première douche que j'ai prise sans mon gros ventre, C'était tellement violent que je me suis automatiquement mise à détester ce corps et ce ventre tout vide et cette cicatrice. En fait, je sais que moi, j'ai détesté ma cicatrice du moment où je l'ai vue. Parce que pour moi, elle me disait que ça avait pas suffi à sauver mon bébé. J'étais quand même, je partais voilà de ce sentiment-là. C'est vrai qu'après, avec l'accompagnement de la sage-femme, elle me montrait en fait beaucoup de choses. Elle me rassurait énormément. Tous les jours, elle venait et les premiers jours, elle testait comment mon utérus rétrécissait. Et en fait, c'était comme une petite victoire quand il est vraiment redevenu, tu sais, quand elle le touchait plus. C'était vraiment comme une sorte de petite victoire, en fait, qu'elle me montrait à chaque fois en me disant, ah ben regarde, là, il est revenu, donc c'est parfait, tout va bien. En fait, elle voulait me donner, je pense, de manière très intelligente, ce rapport au ton corps remarche, ton corps se remet à travailler, fonctionne, voilà. C'était un peu cet espoir de se dire il faut que je remette ce corps en marche. Enfin, en fait, c'est ça. Je pense que c'est elle aussi qui m'a donné un peu l'envie de me dire bon bah je vais le refaire fonctionner, je vais revivre en fait à travers mon corps un peu. Et je me rappelle aussi que je lui posais des tonnes de questions, je lui envoyais des SMS quand le soir ou quand il y avait des problèmes, je pouvais toujours l'appeler. Enfin, c'est comme une sorte de flat rate, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on a une sorte de flat rate avec les sages-femmes, dans un sens où elles sont à ta disposition au téléphone les 6 premières semaines quand tu veux. Et donc bref, donc je l'appelais souvent et c'était vraiment un suivi ultra proche de moi et de comment mon utérus fonctionnait. Et je trouvais ça vraiment voilà, ça m'a beaucoup aidée. Et aussi cet espoir de pouvoir me dire pourquoi je fais ça en fait, c'est pour une prochaine grossesse peut-être, même si tout le monde me disait il faut attendre un an, bon, ça c'est un sujet en soi, il faut attendre un an après la césarienne, etc., pour retomber enceinte. Mais pour moi c'était l'idée de je refais fonctionner mon corps et je vais aller bien à travers ça, ouais. Dans tous les cas, c'était normal qu'après l'accouchement, tu as une sage-femme. Ça m'a aidée, je pense, dans la reconstruction. Mais sur le moment, j'ai pas trop pensé comme ça. Ça faisait du bien de se sentir considérée, en tous les cas. Et puis de voir aussi qu'elle a cette expérience-là, qu'elle suit aussi d'autres mamans qui ont perdu leur bébé et qu'elle savait quel geste il fallait faire après. Donc c'est comme si elle passait le flambeau à d'autres de son expérience à d'autres moments. Ouais. C'était super pour ça.
Pour le second témoignage, vous allez venir avec moi aux Pays-Bas direction Amsterdam. Delphine et Kramzor, excuse-moi pour l'accent Delphine, une profession qui n'existe pas en France. Concrètement, elle assiste les nouveaux parents à leur domicile pendant 8 jours après l'accouchement. Elle réalise des contrôles et des soins auprès de la maman, elle aide les parents dans leur nouvelle vie. Et lorsque le bébé n'est plus, la Kramzor intervient quand même, car son rôle est avant tout d'être auprès de celle qui vient d'accoucher. Dans cet extrait, vous allez également apprendre une chose que je ne soupçonnais pas. Lorsque l'enfant décède et que les conditions, notamment médicales, sont réunies, les parents peuvent ramener le corps du bébé chez eux en attendant les obsèques. Le corps de l'enfant sera par exemple conservé dans de l'eau. Mais revenons-en au rôle de la Kramzor. Delphine va tout vous expliquer.
Alors, aux Pays-Bas, lorsqu'un bébé n'arrive pas en vie après sa naissance, nous appelons ça des naissances silencieuses. Je trouve ça un très très joli terme, puisqu'effectivement, imaginez que ce bébé naît et qu'il n'y a pas de bruit, et le silence est parfois, à ce moment-là, très pesant. Lorsqu'une femme accouche d'un bébé qui n'est pas en vie, ce qui va se passer, c'est qu'elle va avoir les tranchées, elle peut avoir, alors évidemment, la montée de lait et également des saignements qui vont en fait s'ajouter à la récupération d'un accouchement. Si c'est un accouchement par voie basse, parfois c'est par césarienne, et dans ce cas-là, il faut récupérer d'une césarienne. Donc nous, en fait, nous nous occupons des mamans et donc nous faisons les contrôles médicaux de la maman. S'il y a une césarienne, c'est la sage-femme qui vérifie l'utérus. Sinon, c'est nous qui vérifions la hauteur de l'utérus. On s'assure qu'effectivement, il n'y a pas trop de perte de sang. Et s'il y a eu des déchirures ou des épisiotomies, dans ces cas-là, nous vérifions également que tout est en ordre et qu'il n'y a pas d'infection. Alors, comme nous sommes au domicile pendant plusieurs heures, nous sommes vraiment là pour les accompagner. Nous les écoutons, nous les écoutons, nous les écoutons. Nous nous occupons également du bébé. Si les parents ont décidé de ramener le bébé à la maison, ce qui est autorisé, à partir de 24 semaines, je crois, les parents ont la possibilité de ramener le corps du bébé à la maison. Dans ce cas-là, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que les parents puissent garder des souvenirs. Donc en fait, pendant cette semaine très particulière, nous allons travailler à fabriquer des souvenirs. Nous allons également proposer d'acheter un cahier ou un livre pour pouvoir laisser des mots, pour laisser la famille écrire des messages, pour noter des impressions, pour faire une sorte de journal en fait de cette semaine-là. Nous proposons également aux parents de faire des photos du bébé s'ils le souhaitent. Nous le recommandons vraiment parce que, en fait, sur le moment, sur le coup de l'émotion, les parents peuvent ne plus du tout savoir quoi faire et le regretter après. Si c'est nécessaire, nous pouvons également participer à l'organisation des funérailles parce que, encore une fois, les parents sont souvent complètement désorientés et n'ont plus trop la possibilité de réfléchir, en fait. C'est pas qu'ils peuvent pas réfléchir, c'est qu'ils sont submergés et donc... Voilà, on a la possibilité de les accompagner dans ces obligations-là, en fait, gérer un petit peu l'administratif avec eux. Et également, ce que nous faisons, ce qui est important, c'est de s'assurer que les autres membres de la famille, donc par exemple les frères et sœurs, puissent aussi avoir un accès à ce petit frère ou à cette petite sœur et donc créer comme une sorte de lien, leur faire faire des dessins et aussi pour eux extérioriser. C'est aussi également important de demander aux grands-parents de participer parce que pour les grands-parents, la douleur est très, très, très forte aussi. Hein. Ils viennent de perdre un petit enfant. Nous sommes également là pour les écouter, les entendre, les accompagner. Enfin, tous les membres de la famille qui vont être présents, nous les accompagnons. Donc, moi, je n'ai encore jamais travaillé dans une famille qui avait perdu un bébé, mais j'ai trouvé ça très important pour moi d'être bien formée à ça, en fait. Donc, aux Pays-Bas, lorsque nous avons une formation de Kramzorg, nous avons une partie de la formation qui est dédiée à ça. Pendant le courant de notre vie de Kramzorg, régulièrement, nous devons faire des formations pour être à jour, en fait, des protocoles, des situations de notre métier. Et j'ai décidé récemment de faire un petit un focus sur ça, la formation du deuil périnatal. Et donc, j'ai appris notamment que nous avons la possibilité de donner des bains aux bébés, de les habiller, enfin, toujours en fonction avec un accord de la sage-femme et ou du pédiatre, et toujours en fonction, évidemment, de la possibilité du corps, hein, puisque ça dépend dans quel, voilà, comment est le corps du bébé. On peut également prendre une petite mèche de cheveux pour les parents, pour le garder. Ce qui est très important aussi, c'est de nommer le bébé. Donc, par exemple, disons qu'il s'appelle Ernest, hein, ce bébé. Nous allons parler d'Ernest. Nous allons dire, est-ce que nous allons faire le bain d'Ernest? Quels sont les vêtements que tu souhaites donner pour Ernest? Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très important de pouvoir faire cette formation pour, si un jour ça m'arrive, savoir être la bonne Kramzorg pour mes mamans, pour mes clientes. Et effectivement, moi, en tant que mère, j'ai moi-même trois enfants, en tant que femme et surtout en tant que professionnelle de la santé, je trouve que c'est très important de pouvoir accompagner les femmes dans leur postpartum. Donc, évidemment, quand elles ont un bébé, mais quand le bébé n'est pas là, c'est également très important de les accompagner. Pour ce que je disais tout à l'heure, elles sont devenues mères, leur bébé est né, mais leur bébé n'est plus là. Donc, nous devons de nous occuper d'elles comme des mères.
À travers ces deux exemples, on voit bien qu'il y a une chose qui est sûre. Que ça soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, la volonté est réelle d'accompagner les femmes, toutes les femmes, dans leur postpartum au pluriel. Parce qu'on dit souvent qu'il n'y a pas deux accouchements qui se ressemblent, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'une manière d'être mère. Et toutes les femmes qui ont accouché ont le droit d'être suivies correctement. Je tiens à remercier Alexandra pour son témoignage. Alexandra sera mon invitée dans quelques mois pour parler de deuil périnatal, d'ombre et de lumière. Merci également à Delphine Kramzorg à Amsterdam. Vous pourrez retrouver Delphine sur son compte Instagram. Je vous mettrai toutes les références dans la description de l'épisode. J'ai également mentionné le compte Instagram de Charline. N'hésitez pas à y faire un tour, c'est une vraie mine d'informations concernant le corps des femmes. Pour découvrir toutes les ressources qu'elle vous propose, rendez-vous sur son compte charline.sagefemme. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Julie que vous avez entendu au tout début, vous pouvez écouter son histoire dans l'épisode 15 de Revoir Podcast intitulé « Julie, mon postpartum sans bébé ». Si vous avez à cœur de soutenir mon podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.